Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview pour notre événement Manager Demain. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur de recevoir, vous allez voir, un homme absolument brillant et aussi un ami, je le mets Patrick Collignon. Bonjour Patrick et bienvenue.
Bonjour Clément, j'espère que tout le monde va bien et je suis ravi de pouvoir participer à l'événement de mon ami de fête. C'est très bien.
Et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation parce que je sais à quel point tu es un puits de science et de connaissances, et notamment l'axe que nous allons aborder est assez, j'irais, à contre-courant peut-être de pas mal de choses qui vont être abordées lors de cet événement. Donc, merci infiniment d'avoir accepté. Alors, Patrick, en résumé, tu es auteur, mais comment dire auteur? J'arrive même plus à compter le nombre de livres que tu as écrits.
On dit
Tu es auteur.
multirécidiviste.
Récidiviste, voilà, tu as même ta propre maison d'édition maintenant.
Oui, tout récemment.
Exactement, donc tu es conférencier, tu es formateur, tu es coach. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore.
Alors, si vous ne me connaissez pas encore, il y a deux choses à faire absolument. La première, c'est aller regarder ma conférence TEDx. Elle date de 2016, donc ça fait 10 ans que je travaille sur tout le principe de la reconnaissance. Ça vient d'un livre que j'avais écrit en 2016 qui s'appelle Enfin libre d'être moi. C'est le nom de la conférence. Et puis aussi, peut-être 2013, on remonte encore un peu dans le temps. Le management toxique, ça c'est le premier livre de management et de développement personnel que j'ai écrit, avec cet axe dont on va, je pense, parler aujourd'hui, des comportements toxiques dans le management. Mais en fait, si vous avez un collègue toxique, un conjoint toxique, un ami toxique, c'est grosso modo la même chose, à part évidemment que le manager se place ailleurs dans l'organigramme de votre vie. Mais fondamentalement, on va retrouver des lieux communs un peu partout.
Complètement, parce que c'est vrai que là, l'idée, c'était de voir quels pouvaient être les comportements, et on va creuser ça ensemble, qui peuvent détruire la confiance au sein des entreprises, parfois même sans qu'on s'en rende compte, parce que ces trucs insidieux qui peuvent se mettre en place. Et donc, je pense que ça va être juste passionnant. Alors, si tu es prêt, est-ce que tu es OK pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet?
Vas-y.
Alors, parce que quand on parle de confiance au travail, on parle beaucoup de confiance en soi, de confiance envers son manager, du manager envers ses collaborateurs, de confiance envers l'entreprise, en bref, la confiance dans tous les sens. Mais toi, qui justement, tu travailles depuis des années sur les comportements difficiles, voire même toxiques, notamment au sein des entreprises, dis-moi, qu'est-ce qui détruit, selon toi, le plus souvent la confiance au sein des entreprises?
Alors, fondamentalement, chez l'être humain, la confiance, c'est pas juste un gadget ou un nice to have, comme on dit. C'est vraiment quelque chose qui assure la base d'un groupe. Il y a tout le principe de la reconnaissance, bien sûr. Mais imaginez, il y a 100 000 ans, faire confiance, en fait, c'était très, très, très simple. C'est dormir pendant que quelqu'un d'autre monte la garde, et pendant que lui monte la garde, eh bien, on lui fait confiance parce que lui va chasser les bêtes sauvages ou en tout cas assurer la sécurité du groupe, du clan. Donc la confiance qu'on donne à cette personne-là, on la négocie pas. Et c'est pas vraiment un travail cognitif de faire confiance. Non, non, c'est une croyance. C'est croire et être convaincu que cette personne-là qui va assurer la garde toute la nuit ou une partie de la nuit pour la communauté, eh bien, elle va faire son job et elle va nous aider à survivre et à passer cette fameuse nuit. Donc, la confiance dont on parle, ce n'est pas simplement ni un processus cognitif, ni quelque chose qu'on peut imposer. Ça se gagne, ça s'offre parce qu'on croit que ça peut marcher. Et fondamentalement, on dit, c'est un peu comme l'argent, en fait, ça ne se demande pas, ça se gagne. Eh bien, la confiance en l'entreprise, ça a aussi de la valeur. D'ailleurs, c'est une conférence que j'ai faite à Human Day il n'y a pas longtemps, entre autres, et chez Préventica. Quelle est la valeur de la confiance en l'entreprise? La confiance, c'est un vrai asset, c'est une vraie valeur. Et on la remarque très facilement dans les équipes qui fonctionnent, les équipes solides. Eh bien, la base, c'est la confiance. Et pour la briser, ce n'est pas compliqué. Eh bien, si vous êtes celui qui faisait un tour de garde, eh bien, vous ne faites pas votre job. Deux, si vous êtes celui qui fait un tour de garde, vous n'êtes pas suffisamment réveillé pour éviter qu'une bête sauvage rentre dans le camp. Vous vous réveillez donc en sursaut. Vous devez cette personne-là, vous n'avez plus du tout envie de dire au prochain tour de garde, tu t'y colles, parce que cette personne-là, en fait, de ne pas assurer notre survie. Donc, la confiance a l'air tout gentil, comme ça, je te fais confiance. Non, non, non. Il y a quelque chose là derrière qui est vraiment de l'ordre de la survie. Et puis, comme tu sais, quand on parle de survie, on parle de stress potentiel. Donc, si on n'a pas confiance en quelqu'un, si quelqu'un ne nous fait pas confiance, ça met directement une menace. Et pas juste un truc sympa, genre « ouais, c'est pas grave, il ne me fait pas confiance, il ne veut pas me passer la balle quand je joue sur un terrain de foot ». Non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, le manque de confiance, c'est un vrai problème. Et pour la briser, c'est facile. Il y a trois grands axes. Le premier, ne pas être éthique. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Un truc classique. Donc, la personne dit ce qu'on doit faire et on voit bien qu'elle ne le fait pas, on n'a pas confiance. Bah, la personne, forcément, nous ment. Bon, ça, c'est des trucs de base. Quand on est trahi, quand on nous ment, quand on nous cache absolument la vérité, il y a une méfiance qui s'installe. Donc, c'est l'inverse de la confiance, hein, la méfiance, jusqu'à même peut-être une défiance qui s'installe. Et alors là, c'est même pas l'inverse, c'est carrément tout un mouvement qui fait qu'on peut essayer tout ce qu'on veut. Quand l'autre est en défiance par rapport à nous, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne marche pas. Nous, les êtres humains, on n'a pas envie d'être punis. On n'a pas envie de se faire taper sur les doigts. On n'a pas envie d'être critiqué. Parce que chaque fois, ça, ce sont des marques de rejet du groupe, en l'occurrence, mais de rejet tout court. Donc, ça, c'est des super bons casseurs de confiance, clairement. Et puis, enfin, si on manque d'éthique, si on manque d'intégrité, si on a tendance à punir les gens, si on les pressurise, eh bien, tout ça, en fait, l'air de rien, si on ne leur donne pas le droit à l'erreur aussi, l'air de rien, tout ça met dans l'organisation tout un symptôme de méfiance. Et à partir du moment où il y a de la méfiance, ben, par définition, il n'y a pas de confiance.
Tout à fait. Merci beaucoup. Alors justement, quand la confiance commence à se dégrader au sein d'une équipe, c'est quoi les premiers indicateurs, les signaux faibles que les managers devraient voir venir, mais souvent ne voient pas venir?
Alors, la confiance, effectivement, elle n'est pas nécessairement dirigée vers le management. On peut ne pas avoir confiance en ses collaborateurs. Dans une équipe qui n'a pas confiance, eh bien, les gens ne prennent pas le café ensemble. Les gens ne mangent pas ensemble. Les gens ne rient pas ensemble. Et ça, généralement, c'est des vrais signaux. C'est peut-être des signaux faibles, mais c'est très clair. C'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et puis, si on a un peu de sensibilité, on sent qu'il y a une forme d'électricité dans l'air, que ça ne se passe pas. Et puis, si on veut regarder en termes plus organisationnels, la communication ne passe pas. Donc, la communication directe, orale, les gens ne se parlent pas, et même la communication indirecte, par écrit, par mail, des choses comme ça, n'arrive pas au bon endroit, ne part pas nécessairement du bon endroit non plus. On voit bien qu'il y a quelque chose dans les flux de circulation de l'information qui est biaisé. Et puis alors, on peut regarder parfois même où est calée l'information, où elle se coince, qui la garde, par exemple, ou qui reçoit toutes les infos et ne les redivise pas, rediffuse pas. Et ça, potentiellement, ce sont des personnes avec lesquelles il faut avoir une petite discussion, parce que ce n'est pas normal.
Mmh. Alors, tu sais, il y a des fois des modes. Il y a eu la mode de l'assertivité, il y a eu la mode de l'agilité, il y a eu la mode... voilà, il y a des modes. Et notamment, on entend beaucoup aussi parler de comportements toxiques. Voilà, on entend un peu parler à toutes les sauces. Mais comment distinguer un vrai comportement toxique d'un simple désaccord ou du fait qu'on ne s'entende pas avec quelqu'un, simplement?
Alors en fait, c'est toujours beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air. J'aimerais pouvoir dire, bon, il y a un tiroir où la personne est toxique, puis il y a un tiroir où la personne n'est juste pas d'accord. Ça dépendra aussi de notre manière de percevoir les réactions de l'autre. Mais grosso modo, la toxicité va très très bien avec le manque complet de transparence. Donc quelqu'un qui dit quelque chose qui fait l'inverse, quelqu'un qui ne dit pas exactement ce qu'il veut, quelqu'un qui n'apporte pas de clarté dans la discussion... on fait comme on a dit, mais c'est jamais très très clair. Et quoi qu'on fasse, la personne elle va nous reprocher de ne pas avoir fait ce qui était comme on a dit, mais qui était quand même pas clair, par exemple. Donc quand on nage dans un océan d'incertitude et que les personnes en face mettent cette incertitude et ne font rien pour mettre de la transparence ou régler des choses, là, il y a vraiment quelque chose de toxique. La personne avec laquelle on est en désaccord, là, par contre, c'est assez clair. En général, c'est pour une raison bien simple. Elle a un point de vue qui n'est pas le nôtre. Elle a un fonctionnement qui nous dérange. Alors, ça peut être plusieurs points de vue ou elle peut rester calée sur un point de vue. Mais il y a quelque chose d'assez direct. On sait pourquoi il y a un truc qui ne va pas. Quand le pourquoi devient « c'est pas clair », là, par contre, potentiellement, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus toxique. Et puis, je te rejoins, je n'ai jamais entendu autant de personnes vivre avec des pervers narcissiques que ces 3 dernières années. Ça, c'est tout le monde a son pervers narcissique à la maison. Et souvent, c'est juste quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et comme il n'est pas d'accord avec nous, bah, forcément, quelque part, c'est pas qu'il est idiot, mais il n'est pas d'accord, quoi. Donc, ça ne va pas, on ne sait pas parler avec lui. Et en même temps, bah, comme nous, on reste bien coincé sur nos positions en nous disant qu'on a raison. En fait, il pourrait dire exactement la même chose, qu'on n'est jamais d'accord avec lui. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un consensus. Si on y parvient, en discutant, sans s'énerver, sans rentrer en stress de lutte, si on parvient à poser des arguments, à écouter les arguments de l'autre, il y a 4 accords comme ça qui s'appellent les accords Toltec qui aident beaucoup à avoir une communication juste fluide. Et si on arrive à trouver, en faisant cet effort de communication, un compromis, un consensus, chacun fait la moitié du chemin, un truc comme ça, et qu'à partir du moment où on est arrivé à ce compromis, eh bien ça marche, c'est pas quelqu'un de toxique. Par contre, avec quelqu'un de toxique, on n'arrivera jamais à un compromis, ou si on y arrive, ça va durer 2 jours, puis on va repartir chacun dans le truc, là, c'est déjà beaucoup plus discutable. Et le compromis, bien sûr, il est de bonne foi. La grosse différence entre quelqu'un qui est toxique et quelqu'un qui n'est pas, c'est la mauvaise foi. Si on est avec quelqu'un de mauvaise foi qui dit non alors que c'est évident, qui nie, vraiment dans le déni, mais le déni pas juste, je veux pas savoir, le déni, non, ça n'est pas ce qui est arrivé, alors qu'on sait très bien que si, c'est exactement ce qui est arrivé, j'y étais, hein, genre. La mauvaise foi, dans les discussions, dans les actes, oui, ça, c'est généralement vraiment toxique.
D'ailleurs, même si on devait faire un gradient entre comportement difficile et comportement toxique, est-ce qu'il y aurait un moyen de différencier les deux ?
Là encore, des comportements difficiles sont potentiellement toxiques. Ils deviennent vraiment toxiques quand ils ont une grande intensité. Donc, une grande amplitude, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, et une grande intensité, c'est-à-dire que non seulement ils sont forts, mais en plus, ils se mettent un petit peu tout le temps. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont des personnes avec lesquelles c'est très difficile de dealer, de trouver justement des compromis, de s'accorder tout simplement. Et ce sont systématiquement des personnes qui veulent et qui mettent la pression nécessaire, qui veulent que ça se passe exactement comme ils le souhaitent. Point. Et sans discussion. Et ce n'est pas un simple désaccord. Ce sont des gens qui mettent la pression pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit flatter, insister, se positionner en fausse victime, humilier si nécessaire, faire du harcèlement même, sans nécessairement qu'ils voient le problème. Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'avoir ce qu'il veut. Sauf que la pression aidant, eh bien, nous, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas reconnu, on se sent écrabouillé, on n'a en fait pas le choix. Et plus c'est fort et constant, plus c'est toxique, bien sûr. Mais le gradient exact...
Oui.
Il y a des personnes qui insistent que quand elles en ont vraiment besoin. Tu vois, et là, vraiment, elles insistent. Peut-être que ce sont des personnes qui, ce jour-là, ont vraiment besoin de quelque chose et qui demandent peut-être assez peu à d'autres moments. Donc, des gens qui n'aiment pas demander, qui n'aiment pas demander des services, qui n'osent pas déranger, par exemple. Mais le jour où ils ont vraiment besoin, là, il y a une forme de tension qui vient et on peut aussi la sentir. Par contre, les gens qui insistent tous les jours, juste froidement, comme ça, gentiment, hein, mais froidement, ils sont effectivement un peu plus difficiles à vivre, quoi. Sans être nécessairement toxiques, d'ailleurs. Là, vraiment, oui. Notre ressenti qui va nous faire voir à quel point on est bien ou pas bien.
Oui, et ça nous amènera, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, à notre part de responsabilité aussi dans cette relation. On voit qu'il y a, un point commun dans tout cela, qui est la notion de stress. Ouais. Qui peut être qui à l'origine, tout à l'heure tu parlais de stress de fuite, etc. Donc c'est le point de départ de souvent pas mal de comportements problématiques, de comportements négatifs, voire difficiles, voire toxiques. Dis-moi, comment une personne qui à la base est tout à fait normale peut devenir sous l'effet du stress quelqu'un avec qui justement ça devient très 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 difficile de travailler?
Alors le stress, ce n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. En fait, à partir du moment où le stress s'exprime, c'est que quelque part, nous nous sommes sentis menacés pour plein de raisons qui ne concernent effectivement que nous. Notre survie ou notre survie sociale est menacée, mais c'est déjà une réaction à quelque chose. Donc, si on rentre dans une réaction de stress, c'est qu'on se sent menacé. C'est que, par exemple, on sent qu'on nous force la main et on supporte pas ça. Ou par exemple, on est confronté à quelqu'un qui nous ment et nous, on est honnête. Donc, on va avoir tendance à soit essayer d'éviter le problème, ça c'est stress de fuite effectivement, hein, évitement. Hop. Soit en stress plutôt de lutte, on va faire face et dire non, je suis désolé, c'est moi qui ai raison, pense bien, etc. Soit on va se sentir d'un coup complètement abattu en se disant mais ça finira jamais, et ça c'est le stress en inhibition de l'action. Et à partir du moment où une personne est dans un de ces types de stress, bah, on peut voir que y a pour elle une menace. Vaut peut-être la peine d'aller creuser un petit peu pour lui demander, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça, si possible pas pourquoi, parce que ça met les gens en mode je vais devoir me justifier, et donc ça les met en position défensive, mais qu'est-ce qui s'est passé, ça, ouvrons la question. Puis une fois par contre que la personne est en stress, si elle est en stress de fuite, elle va éviter, donc ça devient un peu compliqué pour ceux qui travaillent avec elle si elle évite toutes les conversations. Par exemple, quelqu'un qui est en stress de lutte va assez facilement s'énerver pour qu'on lui dise qu'elle a raison. Sauf que si on n'est pas d'accord et qu'on trouve qu'elle a tort, ça devient compliqué de travailler avec elle. Surtout que on a tous de la pression au travail. Donc, les personnes qui sont en stress de lutte, qui ont cette tendance à réagir en mode énervement, plus il y a de choses à faire, plus elles se sentent sous pression, plus elles se sentent peut-être stressées parce qu'elles ne peuvent pas faire tout ça. La to-do list, elle est tellement grande. Et eux, ils voient le nombre de minutes qui leur restent en dehors de toutes les réunions, par exemple, qu'on leur fourgue. Eux sont déjà menacés de ne pas bien faire leur travail. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Il faut d'abord désamorcer le stress chez les personnes stressées.
Complètement. Ça, il y a plein de méthodes très intéressantes pour désamorcer le stress.
Absolument.
Alors, il y a le comportement de l'autre, ce qu'on disait, qui peut poser problème ou pas. Mais quelle est notre propre responsabilité, notre propre part de responsabilité face à un comportement qui nous semble difficile, problématique, voire toxique?
Alors, un tango, ça se danse toujours à deux. Les personnes qui sont vraiment très toxiques, qui ont tendance à mettre beaucoup de pression, qui ont tendance à même harceler si nécessaire, eh bien, le font surtout chez les gens qui disent oui pour finir. Donc, c'est comme un enfant, en fait. Hein. Si un enfant vous demande des bonbons et que vous dites non, s'il redemande et vous dites non, si à la quatrième fois vous craquez, bah, il sait que la prochaine fois, il le dira quatre fois. Et puis, peut-être, vous allez tenir quatre fois, alors, mais que vous craquez à la dixième, il a compris. Donc, tant que, quelque part, vous craquez, eh bien, cet enfant, il va continuer à insister jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et c'est vraiment une façon de fonctionner des personnes un petit peu, enfin, les plus toxiques, c'est je veux obtenir ce que je veux, donc je mets le paquet pour l'obtenir, et tant que vous craquez d'une manière ou d'une autre, vous êtes une bonne proie. Donc ça fait partie des choses qu'on peut changer, genre non. Non, c'est non, point. Et même, parfois, on peut demander c'est quoi que tu n'as pas compris exactement dans le mot non ? Tu vois, c'est quelle partie du mot qui t'a échappé ? Parce que c'est assez clair. Et puis, rester sur la limite qu'on se fixe, c'est vraiment important. Maintenant, en termes de confiance, parce que c'est quand même l'objectif ici de creuser la confiance, c'est très compliqué quand quelqu'un ne nous fait pas confiance, de lui faire confiance. Et à l'inverse, c'est très compliqué, si nous n'avons pas confiance en quelqu'un, de faire semblant d'avoir confiance. Voilà, même chose. Il vient, lui, de nous planter alors qu'il était censé assurer son tour de garde. Bon, je ne lui fais pas confiance. Donc, aller au-delà de ça, au-delà du fait de ne pas croire que cette personne est fiable, confiance, fiable, on est bien d'accord, qu'on peut se fier à lui pour, c'est vraiment le principe de base, il n'y a que l'expérience et la somme d'expérience qui peut nous faire changer d'avis. Mais c'est comme pour une entreprise, la réputation d'une entreprise, tu mets 20 ans à la construire, 5 secondes à la détruire, 5 minutes à la détruire si vraiment il y a un problème. La confiance, c'est la même chose. Tu peux passer beaucoup, beaucoup de temps à la construire parce que tu y crois et que tu mets en place toutes les actions qui la font grandir interpersonnellement, donc de 1 à 1, ou même au sein de tes équipes si tu es manager, donc ça peut être vraiment collectif. Mais il suffit de faire une grosse bêtise et tu peux tout recommencer, tu peux tout reconstruire. Et ce n'est pas en mode « bon, allez, c'est bon ». On disait que si personne ne comprend ni pourquoi et ne peut te trouver aucune justification de ce problème, c'est vraiment très, très compliqué. C'est vraiment le principe.
Ouais. Ok.
Si ensuite, on devait... pour les managers aussi, un petit... Il y a une phrase que j'ai bien aimée, que j'avais retrouvée à l'époque quand j'ai fait ma conférence, c'est « La confiance n'exclut pas le contrôle ».
Oui.
Ah bah oui. Non mais c'est... Alors moi je me suis dit, tiens, c'est marrant cette phrase, elle vient d'où ? Et puis j'ai cherché, et puis vous pouvez faire la même recherche, j'imagine que vous retrouverez la même réponse. « La confiance n'exclut pas le contrôle », ça provient d'un décret soviétique sous Staline, en 1929, publié dans le Sbornik Zakonov, vous m'excuserez pour l'accent. Et l'idée, c'est la vraie phrase, c'est « la confiance est bonne, le contrôle est meilleur ». Et l'idée, c'est que le décret concerne l'organisation administrative et souligne la nécessité de vérification systématique dans la bureaucratie soviétique. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est un choix. Mais souvent, le contrôle coûte beaucoup plus cher que faire confiance. Et le problème qu'on rencontre dans les organisations, c'est ce que moi j'appelle le problème de toute la classe est punie parce qu'il y en a un qui a fait une bêtise. Donc, il y en a 15% de fraude, par exemple, dans un entrepôt. Donc, on met en place tout un système de contrôle, un système de badging, mais ça coûte. Et puis, il faut acheter l'ordinateur, et puis il faut la personne qui contrôle le badging, etc. Et si quelqu'un arrive un peu en retard, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK ? Il faut mettre la règle, il faut remettre un autre cadre. Et puis, il y a quand même des personnes qui, parfois, arrivent en retard parce qu'ils ont des enfants malades, par exemple. Donc, est-ce que c'est une exception ? C'est pas une exception. Et ça commence très, très rapidement à... Un, créer plus d'injustice que simplement les 15% de fraude. Deux, créer des tensions dans l'équipe. Trois, il faut organiser, consolider le contrôle. Et au final, souvent, ça revient 2 à 8 fois plus cher de contrôler que de ne pas contrôler. Alors, c'est pas qu'on va applaudir la fraude, hein, c'est vraiment pas la question. Mais il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que les gens fraudent ou peut-être pour se séparer d'un fraudeur qu'on va identifier plutôt que de punir tout l'entrepôt. Contrôler tout l'entrepôt qui va finir par penser que non seulement c'est injuste, mais en plus ça lui ajoute toute une série de contraintes qui n'étaient pas prévues à la base pour lesquelles ils n'ont pas signé. Et puis si en plus c'est imposé comme ça, bouf, top down, sans discussion, c'est compliqué et c'est vraiment pas bon pour l'ambiance de l'équipe.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une notion d'exception, il y a une notion de récurrence, il y a une notion de gravité.
Absolument.
Tout ça doit être... considération. Est-ce qu'il y a différents profils de comportements difficiles et peut-être même toxiques ? Et parmi ces profils, quels sont les plus destructeurs selon toi ?
Alors, il y en a plein en fait. Il y a les deux plus destructeurs, pour moi, c'est ceux qui sont capables de harceler les gens, c'est-à-dire d'insister, qui font quelque part, qui mettent de la crainte dans l'organisation. Donc, ce sont des personnes qui sont impossibles à prévoir. Ce sont des personnes qui mettent une espèce de, comme je disais tout à l'heure, de nuage nébuleux. On ne sait pas très, très bien ce qu'ils veulent exactement. Ce sont des personnes qui ont tendance à punir, à critiquer, à... mais publiquement, bien sûr, à humilier si nécessaire. Bon, tout ça, évidemment, ça ne va pas du tout dans le sens de la confiance, c'est-à-dire que tout le monde commence à se réfréner, à rester dans sa bulle à lui, à éviter de parler. Tu as des gens qui divisent pour régner. Donc, en fait, il y a plein de silos, il n'y a pas de transversalité, ça ne fait pas mieux fonctionner l'entreprise. Et puis, le deuxième, pour moi, qui est le plus toxique, c'est les fausses victimes. Parce que les gens qui se plaignent, on a l'impression que ils sont victimes de quelque chose. Et parfois, c'est vraiment le cas. Donc, quand c'est ponctuel, OK. Mais tu as des gens qui se plaignent en permanence pour qu'on fasse ce qu'ils veulent. Et ça, la difficulté, ce n'est pas tellement ce qu'ils font. C'est que nous, empathiques, positifs, serviables, peut-être même en mode sauveur, on se fait avoir. On se fait avoir systématiquement et c'est une chaîne sans fin. Donc, quoi qu'il se passe, on finira toujours par culpabiliser ou être culpabilisé de ne pas avoir aidé la personne qui se plaint, alors que ce n'est pas sûr qu'elle soit autant victime qu'elle ne le dit.
Je me rappelle, il y avait un indicateur que qui m'avait beaucoup marqué pour voir si justement une personne a un comportement qui peut être considéré comme difficile, voire toxique. C'était le fait qu'il soit très présent en leur absence.
Ouais, ouais, ça, c'est un truc que je dis souvent, effectivement. Les personnes dont on parle tout le temps quand elles ne sont pas là, effectivement, c'est un vrai symptôme, en fait. C'est Donc, comme je dis, parce que là, on sort un petit peu du cadre, mais le principe, c'est que ce sont des personnes qui fonctionnent en mode territorial, face à des personnes comme la plupart des gens qui fonctionnent avec tout un système de valeurs. Ces personnes territoriales, le but, c'est d'occuper l'espace. C'est chez eux. Donc, ça se passe chez eux comme ils le veulent, évidemment. Et s'ils ne sont pas là et qu'on parle beaucoup d'eux, en fait, ils occupent l'espace. Clairement. Donc, c'est très territorial.
On parle beaucoup d'eux ou même qu'on ressasse peut-être aussi des pensées. Hein, on se refait les films et là, ils sont ici et pourquoi ils ont fait. Donc, ils sont omniprésents en leur absence.
Et donc, les personnes qui sont de mauvaise foi, par exemple, c'est vraiment exceptionnel, c'est qu'ils vous disent, mais alors, droit dans les yeux, un truc qui est faux, et puis vous vous dites, mais non. Puis vous y réfléchissez, et vous dites, mais c'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé, j'y étais. Et eux, ils ont mis une phrase, ça leur a pris 3 secondes, vous prenez 3 heures à la processer en disant, mais vraiment, c'est pas ça du tout, puis vous allez peut-être demander à quelqu'un. Enfin, ça vous occupe votre propre espace pendant très longtemps, même.
Et après, si on essaie justement de contrer, ils peuvent utiliser des principes comme le Darvo, que vous connaissez peut-être, où derrière, ils retournent la situation et ils nous culpabilisent de s'être opposé. C'est magique.
Tu voudrais quand même pas dire que je suis en train de mentir. Oui, bien sûr, clairement.
Non, et tu me manques mais de respect pour tout ce que je fais sur pour toi.
Exactement. Et le principe même de cette déstabilisation, donc quand on se sent déstabilisé, quand on commence à douter de soi, à se demander si on n'est pas devenu fou, à se dire, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que j'ai entendu? Ouais, là aussi, une fois, ça peut arriver. Mais si ça devient vraiment récurrent, imaginez l'autre qui, en fait, est en train de tirer les ficelles, quoi. Et les ficelles, elles vont jusque dans le profond de votre cerveau, bien sûr. Hein.
Bien sûr. Alors ça serait quoi, selon toi, les erreurs les plus fréquentes que peuvent commettre les managers quand ils sont confrontés à des comportements difficiles, voire toxiques?
Balayer sous le tapis. c'est bon, ça va s'arranger tout seul. Non. Non, un conflit non géré comme ça ne s'arrange jamais tout seul. Par contre, on en parlera de moins en moins. Mais moins on parle d'un vrai problème que vous avez peut-être identifié, plus il est en train de pourrir. C'est vraiment le principe de la pomme et du panier. Quand il y a une pomme pourrie dans le panier, et sans que vous en sachiez rien, ça commence à contaminer toutes les pommes autour, quoi. Donc, ça, ne pas agir, c'est un vrai problème. C'est le principal problème. Et puis, c'est pas pour rien qu'on veut pas agir. On sait que ça va être compliqué. On le sent. On dit, ah non, 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 avec celui-là, ça va être l'enfer. Donc, on n'agit pas. Et c'est l'enfer, mais pas pour vous. Jusqu'au moment où ça devient vraiment l'enfer pour tout le monde, y compris vous. Donc, si ce n'est pas géré, si ce n'est pas recadré assez rapidement, ça peut vraiment poser des soucis, ouais, clairement. Et on voit bien les équipes qui se délitent petit à petit, les silos qui se forment, les gens qui ne parlent plus, qui ne se parlent plus, qui n'ont plus confiance les uns dans les autres, qui ne rient pas ensemble, etc. etc. sont vraiment des symptômes importants. Ouais.
Oui, complètement. Alors, justement, quand une relation de confiance est abîmée, imaginons que je réagis trop tard et les choses s'altèrent, est-ce que c'est possible de reconstruire? Et dans l'autre sens, comment savoir si justement c'est pas la peine d'essayer, il est temps d'arrêter d'essayer de réparer cette relation et au contraire se préserver, prendre ses distances.
Alors, le principe, c'est toujours essayer. Parce que se dire que par définition ça marche pas, bah oui, c'est compliqué. Donc si la confiance, elle se brise pas comme un vase en 1000 morceaux non plus, mais elle se fait à la moindre vraie situation problématique. Donc, si en tant que manager, par exemple, vous allez voir les personnes, vous présentez vos excuses, vous expliquez ce qui s'est passé, vous communiquez le plus clairement possible, avec la forme de vulnérabilité, bah oui, je pensais que je pouvais le faire, je suis pas parvenu à le faire, par exemple. Alors là, probablement, ça va apaiser la méfiance. La confiance, elle n'est pas encore là, il va falloir la reconstruire. Mais ça évite de continuer à creuser le gouffre de l'incompréhension, par exemple, et donc de la méfiance. Donc oui, ça vaut toujours la peine d'aller, en sachant aussi que la confiance, c'est la base de la sécurité psychologique d'une équipe. Donc si une équipe a confiance, alors, si elle a suffisamment confiance, donc si les membres de l'équipe ont suffisamment confiance les uns dans les autres, alors s'il y a un problème, ils vont aller le gérer ensemble. S'il n'y a pas de confiance, c'est fini, la gestion des conflits, c'est mort et ça ne peut donc qu'empirer. À partir du moment où ils peuvent gérer les problèmes ensemble, ils vont prendre des responsabilités, ils vont s'engager et là, on obtient des résultats. Donc, ce sont tous les travaux de Patrice Lencioni sur les équipes forte. Et c'est une base de Amy Edmondson sur la sécurité psychologique. Donc c'est vraiment un truc essentiel. Et la sécurité psychologique, c'est pas très compliqué. C'est les personnes se sentent suffisamment en sécurité pour dire ce qu'elles ont à dire et le poser devant tout le monde et savoir qu'elles seront entendues. Donc pour créer de la confiance, il suffit de laisser les gens s'exprimer, de les écouter vraiment et de tenir compte de ce qu'ils disent. C'est vraiment pas compliqué. Si on tient pas compte de ce qu'ils disent, si on les écoute pas, etc., etc., là, par contre, ben, on fait l'effet inverse, quoi. Donc, toujours y aller, il n'y a pas photo. Et puis, ça nécessite que chacun ait envie que ça marche. Ça nécessite que chacun soit de bonne foi. Ça nécessite qu'au fur et à mesure des prochaines expériences, eh bien, la confiance se reconstruit. Si la méfiance est beaucoup trop grande, les personnes se sentent trahies, c'est mort. Hein. C'est, donc, vous pensez que vous avez un peu travaillé sur leur confiance? Non, non, elles se sentent trahies. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas jusqu'où. Peut-être que vous ressemblez au professeur de CP qui n'a pas été cool avec elles. Vous n'avez jamais aucune idée de leur parcours à elles. Par contre, une fois qu'elles se sentent trahies, là, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y a des choses à faire de manière plus organisationnelle pour voir avec elles si elles sont toujours bien dans l'équipe, peut-être voir si elles peuvent aller ailleurs, peut-être, je ne sais pas, mais les continuer avec quelqu'un qui n'a pas confiance en vous dans l'équipe et, alors si elle le tient pour elle, comme on dit, c'est pas grave, mais si elle en parle à tout le monde et qu'elle dit à chaque fois que vous faites quelque chose qui peut être potentiellement mal pris, alors là, ça devient vraiment l'enfer pour vous, quoi. Donc là, effectivement, non seulement ça ne vaut plus la peine de mettre de la confiance parce que ça ne fonctionne pas, vraiment, ça tourne à vide. Et en plus, il y a peut-être des choses à faire pour recadrer complètement parce que vous êtes toujours le manager, par exemple. Donc, par définition, vous avez vraiment une responsabilité, mais vous avez aussi la possibilité d'imposer une forme de façon de fonctionner. Le but, c'est que ce soit avec de la confiance plus qu'avec du contrôle ou de la punition, de mon point de vue. Et ça marche beaucoup mieux. Donc, on obtient des meilleurs résultats. Il y avait d'ailleurs pas mal de pourcentages super intéressants sur ce que apporte une grande confiance au sein d'une équipe, au cas où. Et ça, c'est des baromètres qui sont faits par PwC, PricewaterhouseCoopers, ou le Edelman Trust Barometer. Donc, c'est toujours intéressant. Et ce qu'ils nous disent, ces braves gens, c'est que dans une équipe qui a beaucoup confiance, donc vraiment avec un grand niveau de confiance, on a 74% de stress en moins, 76% d'engagement en plus, 20% de rétention en plus dans l'équipe, donc les gens restent. 20%, c'est quand même 1 sur 5. 40% de burn-out en moins et grosso modo, 50% de productivité en plus. Donc, c'est pas rien. Ce sont des, donc le Edelman Trust Barometer, il date de 2023. Et le PwC Trust in US Business Survey, pour être précis, hein, ça date aussi de 2023. Donc voilà, tout ça, ce sont des chiffres qui vont dans le bon sens, quoi. Exactement. Et puis aussi, dernière petite chose par rapport à la confiance, Vous n'êtes pas le baromètre de la confiance de votre entreprise. Donc 90% des dirigeants sont sûrs, enfin ont l'impression que les clients ont confiance en eux. Et quand on pose la question aux clients, 30% font vraiment confiance. Donc le gap, c'est pas juste un petit gap. C'est nous sommes assez, en général, peut-être chef d'entreprise d'ailleurs, confiants dans notre produit, confiants dans la capacité, confiants dans l'image qu'on projette.
Ouais.
C'est pas toujours sûr que l'image projetée est reçue comme on l'espère. Donc ça vaut aussi la peine d'aller faire remonter l'information, de savoir comment les gens vivent dans l'entreprise, parce que ça vaut aussi pour les gens avec qui on travaille, hein, 86% des chefs d'entreprise sont sûrs que leurs employés sont contents, ils ne sont que 67. 20% de gap, c'est vraiment pas rien.
Clairement, oui. Alors, je vois que le temps avance, je te propose une dernière question pour conclure, même si on pourrait passer des heures. Si tu devais donner trois exemples, trois réflexes simples, que les managers peuvent mettre en place pour pouvoir empêcher qu'une culture toxique s'installe progressivement dans l'équipe, tu vois, cette altération de la confiance. Ça serait quoi pour toi, ces trois réflexes simples à leur conseiller?
Le truc de base, c'est un peu l'inverse de ce que je disais en début de discussion, c'est « walk the talk ». Si tu dis, tu fais. Donc, faire ce qu'on dit et pas uniquement ce qu'on demande, être exemplaire, c'est vraiment une base. S'il y a un décalage entre ce qu'on prétend et ce qu'on montre, entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait vraiment, là, on crée de la méfiance. Donc, juste être exemplaire. On demande ça à n'importe quel joueur de foot, donc il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Quoi. Je veux dire, juste être exemplaire, c'est une chose. Ensuite, être juste, éthique. Donc, avoir un cadre, poser le cadre, tenir le cadre pour soi, côté exemplaire, et pour les autres, qui soient à la fois juste, honnête, éthique. Je veux dire, donc il y a une forme de... C'est pas discutable l'éthique, quelque part. C'est assez posé. Et trois, communiquer. Donc, oui. S'il y a un vrai problème dans l'entreprise, parlez-en. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, mais il faut que les choses soient le plus claires possible, parce que comme ça, on ne met pas les gens en état de stress parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils peuvent se projeter un minimum, ils voient comment les choses vont tourner, et vous êtes en communiquant, bah vous ouvrez la conversation, vous ouvrez la communication, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, les infos vont vous arriver. Parce que les personnes les plus toxiques au sommet des entreprises, et regardez autour de vous les gens qui dirigent certains pays dans ce monde, ils ne sont plus au courant de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de se faire décapiter parce qu'il a une mauvaise nouvelle. Donc, tout le monde se tait. Et donc, on a des gens qui sont dans des tours d'ivoire qui pensent qu'ils sont les rois du monde, qui vont gagner les guerres du monde, etc., tout ce qu'on veut, mais en fait, ils n'ont plus l'info. Parce qu'il n'y a plus personne qui ose. Donc, faire circuler l'information du haut vers le bas permet de faire aussi circuler l'information du bas vers le haut, si ce n'est pas juste un boum, faites ceci, faites cela. Je parle d'information, je ne parle pas d'ordre ou de contrainte, on est bien d'accord ? Donc ça, c'est vraiment trois réflexes de base, quoi.
Super, merci infiniment, mon cher Patrick. Alors, si on veut te retrouver, le moyen le plus simple, c'est quoi pour toi ?
Alors, patrickcollignon.com, hein, ça c'est la première chose. Et puis après, on peut me retrouver, comme on disait, non seulement sur YouTube, non seulement sur les livres, ça c'est chez Erol, ceux que j'ai fait, non seulement sur Pachenko Édition, ça ce sont les nouveaux, mais on ne parle pas encore beaucoup de comportements toxiques. Et puis, sur YouManager, qui a une chouette formation sur les comportements toxiques, il y a une chouette formation sur le stress que nous avons fait ensemble, chers amis. Et je pense qu'elles sont surtout vachement utiles, parce que c'est vraiment le principe... c'est de donner des outils, des grilles de lecture pour que les gens comprennent ce qui se passe, et puis des outils pour qu'ils puissent agir différemment à partir de, après la formation, donc demain. Donc vite,
tout à fait.
Il n'y a pas de raison, quoi.
Complètement. D'ailleurs, je vous le dis, hein, les formations de Patrick donc, sur les comportements difficiles et toxiques et sur mieux gérer son stress et son anxiété sont des pépites, des vraies merveilles. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo deux liens sur des tests offerts que Patrick a créé. Le premier qui s'appelle Tox et ou pas Tox, qui est génial. pour pouvoir savoir si la personne à laquelle vous pensez qui vous enquiquine un peu présente réellement ou non un comportement toxique et de manière évaluer un peu vraiment le gradient de cette toxicité. Et deuxièmement, le test sur la gestion du stress et de l'anxiété pour voir évaluer votre niveau de stress et d'anxiété. Et entre vous et moi, si vous voulez aller plus loin, le fait de faire ces tests vous donneront accès à des offres promotionnelles vers ces formations. Donc voilà, voilà, si vous voulez aller encore plus loin. Mais déjà, les tests offerts, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, un grand merci, Patrick.
Avec beaucoup de plaisir. Partage.
J'espère que ça vous aura plu. Et de toute façon, je pense qu'on se retrouvera très prochainement sur cette chaîne YouTube, puisque tu es déjà un habitué. Il y a pas mal de vidéos que vous retrouverez avec Patrick. Donc, allez les voir si vous voulez aller encore creuser ces sujets. Merci encore. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine interview dans l'événement Manager Demain. Ciao, ciao.
À très bientôt. Ciao, ciao.